Vous êtes sur RTL.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Faut-il alléger les contraintes? Faut-il alléger le pass sanitaire? Nous sommes avec Benoît qui est pompier et qui habite Vannes. Bonjour.
Bonjour Pascal.
Votre sentiment?
Pascal, moi, mon sentiment, je voudrais savoir quand est-ce qu'on va arrêter toute cette mascarade.
Mascarade, dites-vous? Vous êtes pompier.
Le pass sanitaire, c'est une mascarade, Pascal.
Je vous le dis et je le vis,
je suis sur le terrain et je peux vous dire que c'est une mascarade.
Écoutez, on va développer cette idée qui est provocatrice. Amandine, le rappel des titres.
Oui, avec justement la levée du pass sanitaire en discussion ce matin à l'Élysée, nouveau Conseil de défense. Ça va bouger, dit-on, en coulisses. De nouvelles mesures devraient être annoncées par le porte-parole du gouvernement dans les prochaines minutes. L'actualité, c'est aussi ce pass sanitaire d'Emmanuel Macron dont le QR code a été diffusé. La CNAM, la Caisse primaire d'assurance maladie, annonce que les soignants qui ont partagé sur les réseaux sociaux ce QR code ont été identifiés. Les ordres professionnels vont être saisis. Il y a du foot ce soir, 7e journée de Ligue 1 et Metz accueille le PSG. Ce sera sans Lionel Messi qui est blessé. Des matchs à suivre dès 19h en fil rouge et toute la soirée sur RTL. Et puis petit coup d'œil à notre météo avec vous, Peggy Broche. Cet après-midi, on va pouvoir enlever non pas le haut, mais une couche au moins. Non,
oui, c'est vrai, parce qu'avec ce ciel dégagé, en fait, il fait particulièrement frais le matin en ce moment. Ce matin, on a même relevé des valeurs inférieures à 5 degrés au nord de la Loire.
Ah oui, quand même.
3,8 à Charleville-Mézières, par exemple.
Ce que vous nous aviez dit hier.
Exactement.
Et annoncé hier.
J'avais prévenu.
Et puis dans la journée, comme il y a du soleil, ça se réchauffe.
Eh ben voilà, 4,9 à Fontainebleau, Seine-et-Marne ce matin, et ça va se réchauffer. Vous avez bien raison, Pascal. 19 à Cherbourg, 21 à Lille et Strasbourg, 22 à Lyon, Paris et Rennes, 25 à Bordeaux, Toulouse et Nice, 27 à Montpellier, jusqu'à 28 degrés à Ajaccio. Côté ciel, pas grand-chose à signaler. C'est du grand beau temps pour tous. Allez, un ciel légèrement voilé cet après-midi au nord de la Seine. Quelques nuages qui se développent également sur les Pyrénées.
Et demain, même programme, Peggy.
Oui, avec encore beaucoup de soleil. Après dissipation, comme ce matin, de quelques brouillards et grisailles en matinée, les nuages seront un peu plus nombreux, c'est vrai, sur le littoral de la Manche dans l'après-midi et sur les Pyrénées, avec une petite averse possible. Et des températures qui seront encore fraîches le matin, 4 à Nevers, 5 à Nancy et Reims, 7 à Alençon, 8 à Limoges, 11 à Paris. Et les maximales qui vont globalement être stationnaires ou en légère hausse par endroit. 19 au Havre, jusqu'à 27 degrés à Nîmes, 23 à Strasbourg et Paris, 25 à Bordeaux et 26 à Toulon.
Merci beaucoup, Peggy. Petite info de dernière minute.
Oui, parce que Gabriel Attal, voilà, manifestement est en train de parler. C'est important puisqu'on attend les décisions.
Et des assouplissements a priori à l'école à partir du 4 octobre. Là où le taux d'incidence passe sous les 50%, l'obligation du port du masque devrait être levée. C'est ce qu'annonce à l'instant le porte-parole du gouvernement.
Écoutez, on va écouter ce qu'a dit Gabriel Attal puisque Laurent Tessier me dit que nous pouvons écouter le porte-parole du gouvernement.
À partir du lundi 4 octobre, dans les départements où le taux d'incidence se stabilise au-dessous du seuil de 50 pour 100 000 habitants, le protocole scolaire passera en niveau 1, ce qui signifie essentiellement que l'obligation du port du masque à l'école primaire y sera levée. Deuxième mesure, les jauges qui s'appliquent dans certains établissements recevant du public seront levées dans ces mêmes départements. Ce sont des mesures.
Voilà pour ses premiers propos. On discutait des coulisses. Premier propos de Gabriel Attal, donc le porte-parole du gouvernement, avec cet assouplissement donc pour l'école à partir du début du mois d'octobre, là où le taux d'incidence, il faut bien le rappeler, est sous la barre des 50 pour 100 000 habitants.
Et comme l'info se joue en direct, je crois que William Galibert est en direct avec nous à l'Élysée. William Galibert, il le sera peut-être tout à l'heure pour commenter ses premières décisions. 13h04 sur RTL.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud.
Moi qui est pompier, disais c'est une mascarade le pass sanitaire. Benoît, moi je ne suis pas un fan du pass sanitaire, mais je suis quand même obligé de me rendre compte, d'abord que les gens l'ont accepté très facilement et qu'il a été plutôt efficace. Benoît.
Alors moi, déjà, quand on parle d'acceptation du pass sanitaire, faut savoir c'est qu'il y a ce que je voudrais savoir, c'est combien de personnes ont été obligées de se faire vacciner, ce qui est mon cas, pour ne pas perdre son travail ou pour pouvoir continuer à toucher son salaire. Ça, c'est la première chose. Donc moi, j'ai accepté de me faire vacciner parce que j'avais pas le choix, et donc par obligation, j'ai accepté le pass sanitaire.
Mais, et ça, tout va bien a priori. Chose. Vous n'êtes pas tombé malade. Il ne vous est pas poussé une troisième oreille sur la tête, et tout va bien.
Mais Pascal, où est la liberté de chacun? Où est la liberté de faire ce qu'on veut avec son corps? On en est où là?
Mais Benoît,
là, vous imaginez quand même que ce pass sanitaire, concrètement, c'était un levier pour pourrir la vie des gens, pour aller se faire vacciner. Pascal, combien de gens de mon âge sont
Quel âge vous avez?
J'ai 35 ans. Combien de gens de mon âge se sont retrouvés en bonne santé à l'hôpital avec un tuyau dans la bouche? J'en connais pas dans ma profession. J'en ai pas eu autour
Benoît,
de moi.
D'abord, sur la liberté, vous avez raison. Mais si on parle sérieusement, vraiment si on essaye d'échanger argument contre argument.
Ah bah, je vais vous en donner, Pascal.
Attendez, mais je ne l'ai pas encore dit, mon argument.
Excusez-moi, allez-y.
Il y a, vous convenez, une ligne de crête entre le bien commun et la liberté individuelle. Et parfois, vous perdez de la liberté individuelle au nom du bien commun. Bien sûr que cette liberté individuelle, vous l'avez perdue. C'est incontestable. Vous êtes forcé, contraint de vous faire vacciner. Mais dans une société, c'est ça qui est difficile. Mais il y a plein d'exemples où vous êtes contraint dans une société.
Moi, je vais vous donner un exemple. Pascal.
Non, mais c'est intéressant ce que je vous dis. Je le dis sans prétention, mais vous êtes contraint en permanence dans une société. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez.
Bon, écoutez, regardez, c'est très simple. Ça fait des mois qu'on nous balance Israël comme un exemple permanent de la vaccination pour tous. Maintenant, ils en sont arrivés à la troisième. Ils parlent déjà d'une quatrième dose. Donc, on voit bien que, d'ailleurs, même l'OMS le dit, que l'obligation vaccinale, le tout vaccinal, n'est pas du tout, en fin de compte, l'Eldorado tant attendu. Mais nous, en France, on continue à nous vendre. On m'a vendu « Vaccinez-vous pour protéger les autres ». Maintenant, c'est ces mêmes autres qui continuent à me casser les pieds pour mettre un masque. Donc, je me suis fait vacciner, soi-disant pour protéger les autres. Et aujourd'hui, on continue à m'appliquer des choses qui sont liberticides, le masque et le pass sanitaire. Et je vois des gens qui font des grands gueuletons là-bas dans ce gouvernement et ainsi de suite avec tous leurs copains. Ils se font la bise. Et pendant ce temps-là, moi, j'ai une gamine de 5 ans et demi qui porte le masque à longueur de journée.
Mais
dans
j'entends
école.
Ce que vous dites vous voyez, et je ça, le ça comprends. Me, ça, ça me débecte, mais moi aussi, voilà. Je suis comme
Donc,
vous.
Coup,
sur les enfants, je suis comme vous.
Alors, on pourrait parler d'un booby-booga parce que c'est le mot à la mode. Hein, on met tout en même temps. Mais en fin de compte, il y a une suite logique.
La suite logique,
c'était qu'au début, on nous a dit que c'était qu'une petite grippe. Ces mêmes personnes nous ont dit que le masque ne servait à rien. Ensuite, on nous a mis le pass sanitaire, l'obligation vaccinale, le masque à tout va pour tout le monde. Non mais attendez, on est dans un délire complet.
J'entends ce que vous dites pour les enfants. Mais en fait, je m'aperçois que toute discussion est impossible. Sur ce sujet, si on n'est pas d'accord, toute discussion est impossible.
Regardez Pascal,
parce que vous n'entendez pas vous-même, vacances. Vous ne serez jamais convaincu. Moi, je suis sceptique au départ. Si vous suivez nos émissions sur RTL, vous savez bien combien j'ai été sceptique. Mais je suis forcé.
D'ailleurs, Pascal, vous n'étiez pas sceptique parce que à la base, vous vouliez que tout le monde se fasse vacciner. Puis après, vous avez réfléchi. On était à peu près d'accord.
Mais pas du tout. Moi, je voulais pas que tout le monde se fasse vacciner. Je voulais que ma position depuis le départ, c'était uniquement les gens fragiles.
Exactement.
Alors c'est là, ça ma position depuis le départ. Uniquement d'accord. Les gens fragiles doivent se faire vacciner. Voilà.
Et ces gens-là qui remplissent les services de réanimation ne sont toujours pas vaccinés en totalité.
Oui.
Et du coup, on demande à la population qui ne remplit pas les services de réanimation de se faire vacciner. Il y a quelqu'un qui défend très bien tout ça et que je ne regardais pas depuis très longtemps, je n'avais jamais regardé. C'est Florian Philippot. Et ben, je peux vous garantir qu'en fin de compte, il était loin d'avoir tort depuis le début, ce monsieur.
Bon, Benoît, là où je vous rejoins en tout cas, c'est que si votre fille a 5 ans et demi, j'imagine lorsque vous la voyez partir à l'école le matin, vous devez avoir, et ça je vous comprends bien, je trouve ça ridicule de mettre effectivement des masques à des enfants de 5 ans et demi. Je ne peux pas vous dire autre chose puisque je le pense. Il est 13h09, je salue Damien Béchiot.
Je vous salue également, Pascal.
C'est vrai que c'est difficile de parler sur ces sujets-là. Et sur d'autres sujets aussi d'ailleurs, quand on n'est pas d'accord. Il y a une
tension. Ce sont
des
sujets sensibles.
Il y a une, exactement. Alors je salue aussi Olivier qui est là, qui est à la page Facebook. Monsieur
il
Olivier.
Est là, il est au téléphone pour le moment.
Eh bien écoutez, c'est
aussi son travail.
Et bien sûr. Et puis il y a Monsieur Tessier. Et puis Florence, Philippe et Victor qui sont au standard. C'est toute l'équipe des auditeurs. On est là jusqu'à 14h30.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
On va écouter les mesures qui ont été annoncées par Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement. Mais avouons-le, c'est quand même très léger, hein, ces mesures allégées pour le coup. Il n'y a pas grand-chose au fond qui change. Écoutez.
Est-ce le bon moment pour alléger les contraintes, Pascal? C'est la question que l'on se posait. Un conseil de défense sanitaire s'est tenu ce matin à l'Élysée. Le porte-parole du gouvernement, vous l'avez dit, Gabriel Attal vient de faire des annonces.
À partir du lundi 4 octobre, dans les départements où le taux d'incidence se stabilise au-dessous du seuil de 50 pour 100 000 habitants, Le protocole scolaire passera en niveau 1, ce qui signifie essentiellement que l'obligation du port du masque à l'école primaire y sera levée. Deuxième mesure, les jauges qui s'appliquent dans certains établissements recevant du public seront levées dans ces mêmes départements. Ce sont des mesures positives.
Est-il temps aussi de mettre de côté le pass sanitaire dans certains départements ? Là aussi, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a apporté une réponse.
Le président de la République a passé commande pour que des critères d'adaptation puissent être définis. Ils tiendront compte évidemment du taux d'incidence dans les différents départements, mais ils tiendront compte aussi du pourcentage de population vaccinée dans ces mêmes départements. Vous l'avez donc compris, à ce stade, il n'y a pas de décision d'adapter le pass sanitaire qui continue à s'appliquer dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui.
Et vous pouvez réagir dès maintenant à ces annonces. 3210, 3210.
Merci Laurent. Nous étions donc avec Benoît. Il est parti, Benoît. Nous sommes avec Bruno. Bonjour Bruno.
Bonjour Pascal.
Et merci d'être avec nous.
Avec plaisir, c'est toujours un plaisir.
C'est gentil. Que pensez-vous de... Je disais que c'était assez léger ce qui était annoncé, puisque c'est essentiellement le masque pour les enfants de primaire, et tant mieux pour eux. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de bouleversement sur le pass sanitaire au restaurant, au café. Pour les 12-18 ans, les mesures les plus importantes restent en place.
Mais moi je suis d'accord, en vérité, enlever le masque aux enfants, si c'est la première des choses à faire, parce qu'on a vu que ça ne servait pas à grand chose. Et je pense que ça va les laisser un petit peu en liberté à l'école, parce que porter des masques toute la journée, c'est compliqué pour eux, sachant qu'ils ne sont pas du tout à risque, parce que moi j'en vois, vous savez que je suis pharmacien, et je vois des enfants positifs, mais qui n'ont zéro symptôme, donc ça me paraît logique de lever cette restriction. Par contre, je laisserai le pass sanitaire pour au moins justifier la vaccination de plein de gens qui se sont fait vacciner pour avoir le pass, et garder le pass au moins jusqu'à la fin de l'année, voire début d'année prochaine. Ce qui nous permettra de justifier la vaccination, deux, de réduire au maximum la baisse de l'épidémie, et de faire un vrai nettoyage, et d'être beaucoup plus, d'être mieux pour attaquer 2022. Pardon. Donc pour moi, ça me paraît logique. Le masque et la distanciation chez les enfants, bon, c'est pas très grave, mais au moins de laisser ce pass, parce que ça me paraît ça me paraît nécessaire malgré tout, et ça implique que tout le monde puisse se faire vacciner, parce que je suis pour la vaccination totale.
Bah écoutez,
j'ai écouté Benoît. Je trouve que Benoît a été très dur, et je comprends pas ce qu'il dit, parce que l'intérêt c'était de faire baisser l'épidémie, et ça a prouvé que la vaccination a permis justement cette baisse et de protéger la population.
Et ce qui est fascinant en fait toujours dans cette pandémie, c'est que le réel, et manifestement la vaccination a été efficace, le réel le montre tous les jours. Et malgré cela, vous avez des gens irréductibles qui sont intelligents, il n'y a pas de souci, mais qui ne veulent pas voir ça. Et moi, je suis frappé par ça, parce que je n'ai pas d'explication. Même si je suis, au fond, un peu opposé à la vaccination des gens qui n'étaient pas fragiles. Moi, je trouvais qu'il fallait vacciner les fragiles. Et depuis le départ, je dis, c'est les fragiles. Les fragiles, il faut les mettre, les protéger. Bon, il se trouve que d'autres stratégies ont été choisies. Bon, mais ça marche d'une certaine manière. Ça aurait aussi marché... D'ailleurs, on avait vacciné les fragiles, je pense, bien évidemment.
Pascal, les rappels se feront que sur les gens fragiles. Parce que,
oui, ça, je suis pas sûr.
Pense que chaque année, on va avoir un rappel de la vaccination, et on fera un combo avec le vaccin de la grippe. Et vous verrez qu'à partir de l'année prochaine, 2022-2023, on fera des rappels sur les personnes à risque de plus de 65 ans ou de plus de 50 ans, et on le mettra avec le vaccin de la grippe. Et les personnes moins sensibles, beaucoup plus robustes, n'auront peut-être pas besoin de se revacciner. Et ça, je pense que c'est ce qui va se montrer dans les années futures. Mais je vous garantis qu'il y aura d'autres rappels, comme beaucoup de vaccins et comme le vaccin de la grippe saisonnière.
Bon, nous avons beaucoup de sujets aujourd'hui. On pourra parler du pass sanitaire encore après la pub. Mais la vitesse sur les autoroutes, faut-il la baisser de 130 à 110 ? Ça nous intéresse. Les propos de Marine Le Pen sur Éric Zemmour, il n'a aucune chance d'être élu, ça nous intéresse également. Ce qu'a dit, et c'est passé un peu inaperçu, Jean-Luc Mélenchon sur le Nutella, ce n'est pas bon pour les enfants, pas bon pour les forêts et les animaux qui y vivent. C'est terrible parce que maintenant, les hommes politiques vont nous dire quoi manger. Donc maintenant, il ne faut plus manger de Nutella. Il veut interdire la pub pour le Nutella, ça va être pratique. Et voilà, les sujets du jour, vous pouvez nous appeler au 3210. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Laurent Tessier.
C'est une question qui peut vous faire réagir dans l'émission. Faut-il réduire la vitesse sur les autoroutes, aujourd'hui limitée à 130 km/h? La maire socialiste de Paris, Anne Hidalgo, candidate à l'élection présidentielle, est favorable à cette idée. Elle l'a dit hier chez nos confrères de BFM.
Je suis personnellement pour la baisse de la vitesse. 130 km/h, c'est beaucoup. Je suis favorable d'une façon générale à ce qu'on baisse la vitesse, parce que la vitesse égale accident.
Ça vous fait réagir, Pascal?
Oui, jusqu'à 130 km/h, c'est beaucoup. Ça veut juste rien dire, en fait. 110 aussi, c'est beaucoup. 90, c'est beaucoup. Tout ça n'a pas de sens.
Juste
ce qu'il faut, c'est la juste vitesse.
En 2018, 8% des accidents mortels ont eu lieu sur les autoroutes. 8%.
En tout cas, vous pourrez réagir sur ce sujet. Nous sommes donc avec Christophe. Bonjour Christophe. Sur le pass sanitaire. Christophe. Il n'est pas là, Christophe. Il est parti. Donc c'est Sacha, peut-être, qui va nous...
Oui, allô ?
Bonjour Sacha.
Oui, bonjour Pascal.
Vous êtes contrôleur aérien. Vous habitez en Allemagne ?
Voilà, c'est ça.
Bon.
Donc en fait, on est un petit peu. Les mesures sont un peu différentes, mais bon, voilà, on a d'autres avis.
Il y a le pass sanitaire en Allemagne ?
Oui. Enfin, attends, je dis pas de bêtises. Non, il n'y a pas de pass sanitaire.
Vous allez au restaurant ensemble ou au café sans pass sanitaire ?
Non, attendez, j'y vais pas au restaurant en fait. Parce que,
au café ?
Parce que non plus.
Au cinéma ?
Non plus.
Bon, vous sortez jamais, alors, dans un stade de foot.
Non plus. Non, j'y vais plus, en fait. En fait, pour aller dans un restaurant, au café, au cinéma, il vous faut, si vous n'êtes pas vacciné ou si vous ne faites pas partie des gens qui ont eu le corona, il vous faut un test de moins de 24 heures.
Donc, il y a un pass sanitaire.
Voilà, mais vous n'avez pas de papier, vous n'avez pas de... Voilà, vous avez un QR code qui
va... Comme chez nous, comme chez nous.
Voilà. J'avoue que je suis pas en France, enfin, j'ai du mal à comparer. Concernant le pass sanitaire, en fait, moi, forcément, je suis pour la levée du pass sanitaire à partir du moment où je suis contre. Moi, j'aurais voulu juste étayer un petit peu mes propos, pourquoi je suis contre. Alors, bon, je suis pas anti-vax, mais j'ai 3 enfants, ils sont tous vaccinés. J'ai l'occasion de voyager, j'ai fait la grippe. En revanche, je fais pas le vaccin du corona parce que j'estime que j'en ai pas besoin. J'ai 49 ans, je suis en bonne santé, mes enfants sont en bonne santé. Je fais pas plus le corona que la grippe, si vous voulez, pour comparer. Donc voilà, donc moi à partir de là, je ne veux pas faire le corona. En ce qui concerne après, j'entends des tests complotistes, c'est vrai que bon, moi je suis athée, je crois en rien, j'appartiens à aucune secte, je crois ni aux ovnis, ni à je ne sais pas quelle, à la fin du monde. Après, me dire que des gouvernements ont mis beaucoup d'argent pour trouver un vaccin et que les laboratoires maintenant exercent une certaine pression, où il y a des lobbies pharmaceutiques qui nous forcent un petit peu à nous vacciner. Je dis pas que c'est vrai, je dis juste que c'est concevable quand on réfléchit un petit peu. Après, je dis pas que c'est vrai, mais c'est largement concevable. Il n'y a pas besoin de complotistes pour penser ça. Et après, il y a un thème qui me touche particulièrement, c'est la solidarité. Moi, ça me choque. Je suis pas vacciné, ça n'a rien à voir avec la solidarité. Moi, je suis sur une autre thèse, si vous voulez. Je suis sur la thèse que
mais vous n'êtes pas vacciné, vous avez dit, c'est important.
Non, je suis pas vacciné. Je suis plutôt sur la thèse que le vaccin touche les personnes fragiles. Ou avec des comorbidités, comme on dit, ces personnes-là représentent 5, 10, 15% de la population, j'en sais rien du tout. Donc pourquoi on vaccine 85% autres, ou alors 80% autres, dont surtout les enfants, ce qui est encore plus choquant, pour protéger ces gens-là? Concrètement, je ne suis pas anti-vax. Demain, si j'étais obèse, j'avais des comorbidités, je serais le premier à sauter sur le vaccin. Le vaccin, j'en mets pas en cause. Et on voit qu'il fonctionne. Mais je n'en veux pas. Et je pense que c'est une ineptie de vacciner la majorité de la population pour protéger une minorité. Il y a quelque chose qui va faire brouiller, une information que je viens d'entendre. La grippe, apparemment, on risque une épidémie de grippe cette année. Parce que l'année dernière, il n'y a pas eu d'immunité collective, forcément, à cause de toutes les mesures sanitaires. Il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut une immunité collective, enfin une immunité, je veux dire, naturelle, c'est-à-dire qu'on laisse le vaccin se transmettre, ce qui fait qu'après on est plus fort, plus résistant, immunité à laquelle je crois, moi. Ou alors est-ce qu'on veut une immunité créée par l'homme, par le vaccin, qui protégera la population? Moi, je suis partisan de la première thèse, si vous voulez. Donc d'un côté, on a un discours qui fait qu'on doit tous se vacciner, pour que ne plus que le corona circule, sachant que pour moi, c'est pas un problème, puisque 80% des gens ne seraient absolument pas durement touchés. Et d'un autre côté, on dit, attention, la grippe, on n'a pas eu d'immunité naturelle l'année dernière, attention, elle va revenir. Bon, vous voyez ce que je veux dire? En plus, moi, j'ai eu le corona. Donc, c'est-à-dire que j'ai eu le corona en octobre dernier, j'ai eu 10 jours, une dizaine de jours, perte de goût, perte d'odorat, un petit peu patraque une journée, bon, c'est tout, Julien, ma femme l'a eu également. Nos deux enfants, dont on est extrêmement proches, nous, on l'a absolument pas eu. Pourtant, on ne le savait pas à ce moment-là. Et puis voilà, donc après cela, j'ai une autre question qui me coule les lèvres. Moi, j'ai eu le corona. J'ai une immunité théorique de 6 mois. C'est-à-dire qu'à partir d'avril, sans passe, je ne pouvais plus aller nulle part. Et qu'en est-il des gens vaccinés? Tous les experts médicaux s'accordent depuis des années pour dire qu'une immunité que l'on reçoit par la maladie est bien meilleure que celle qu'on reçoit par les vaccins. Si moi j'ai 6 mois avec mon corona, j'imagine que les gens avec les vaccins, ils ont 4 mois. Vous voyez ce que je veux dire ?
Sacha, je vous ai laissé parler, et c'est le principe des auditeurs. Et puis après, comme de toute façon tout ce que j'aurais pu vous dire, je pense que on a dû le dire, ou même ceux qui vous écoutaient, ceux qui étaient d'accord avec vous, ils buvaient du petit lait, et ceux qui n'étaient pas d'accord avec vous, ils imaginaient les arguments qu'on pouvait vous opposer, mais on les a entendus tellement de fois et que je me suis dit que c'était pas utile forcément de les dire. Fabien est là. Bonjour Fabien, vous êtes conseiller en entreprise, vous habitez Poitiers et vous dites qu'il faut lever totalement toutes les contraintes. Toutes.
Bonjour Pascal. Bon, bonjour. Merci de me laisser la parole.
Je vous en prie.
Lever toutes les contraintes, enfin, je vais le dire peut-être autrement. Vous avez posé la question en disant, si j'ai bon souvenir, est-ce le bon moment pour alléger les contraintes? Moi, ma question, ce serait plutôt, mais pourquoi a-t-on mis ce délire en place? Je le dis franchement, parce que c'est
Fabien, je vous assure, je crois qu'on va tous mourir, pas mourir d'ailleurs, mais on va tous être exténués par cette maladie. Elle va nous fatiguer en fait, parce que votre question, elle est quand même surréaliste. Pourquoi est-ce qu'on a mis en place des contraintes? C'est ça votre question?
Je vais préciser ma pensée.
Oui, préciser parce qu'il y en a besoin.
Anti-vax. Oui. D'autre part, je milite presque pour que les gens fragiles se vaccine ou soit vacciné.
Nous ça, sommes d'accord, on est là-dessus raccord.
Voilà. Ensuite, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on puisse conditionner l'exercice de liberté publique fondamentale à un statut vaccinal. Je veux juste vous donner une information. Je vivais en Espagne l'an dernier, j'ai vécu 10 mois. L'Espagne, le 18 août dernier, le tribunal suprême, le Supremo a dit la chose suivante. Le fait de conditionner l'exercice de liberté publique à un état de santé est contraire à la Constitution et contraire à l'esprit même de la liberté. Donc, si on en arrive à dire ça en Espagne, pourquoi on le dirait pas en France? C'est pas le tiers-monde, l'Espagne, que je sache.
Non, mais c'est le problème de liberté individuelle, on peut en parler pendant des heures. Vous êtes dans une société où vous n'êtes pas libre. Comment vous le dire, Fabien? On n'est pas libre dans une société. Il y a 20 ou 25 ans, il y avait un service militaire, il n'existait plus. C'était obligatoire. Vous n'aviez pas le choix. Donc vous n'étiez pas libre. Vous étiez obligé de donner une année complète à votre pays. Donc je pourrais multiplier les injonctions de l'État qui fait de vous un citoyen qui n'est pas libre. Vous êtes obligé de payer des impôts. Vous n'êtes pas libre. Vous ne pouvez pas garder tout l'argent pour vous. Vous n'êtes pas libre. Alors les libertés individuelles, c'est toujours la même chose. Il y a la liberté individuelle et le bien commun. Et il faut trouver l'équilibre.
Tout ne se vaut pas, parce que là, c'est...
La pause. Je vous propose la pause. Tout ne se vaut pas. Là, vous avez parfaitement raison. Tout ne se vaut pas. La pause et c'est Fabien qui répondra.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur FR.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Je vous rappelle qu'à partir du 4 octobre, dans les départements où l'incidence est en dessous des seuils d'alerte, levée du port du masque dans les écoles primaires, levée des jauges qui s'appliquent pour l'accueil du public. En revanche, le pass sanitaire, rien ne bouge pour le moment. Laurent Tessier.
Vous pourrez réagir également aux propos de Marine Le Pen hier lors d'un déplacement en Isère sur Éric Zemmour.
Je pense qu'il n'a aucune chance d'être élu. Certes, incontestablement, il a des électeurs potentiels. Mais il suscite aussi énormément de rejets. Je pense qu'il n'est pas en capacité d'unir la nation. Nous sommes à 7 mois de l'élection présidentielle. Le chemin est encore long. Et donc, j'ai, en ce qui me concerne, le calme des vieilles troupes.
Éric Zemmour n'a aucune chance d'être élu. Partagez-vous cet avis de la présidente du Rassemblement National selon un sondage Harris Interactive publié mardi. Éric Zemmour, qui n'a pas dit s'il était candidat ou non, recueillerait 11% des intentions de vote. Et Pascal, vous avez oublié aujourd'hui?
C'est l'automne.
Les feuilles sont jaunes, les hommes sont verts, la tête est noire, le cœur est rouge, madame.
C'est Benabar? On dirait Manu la voix Chao. De Benabar. Manu Chao, ah oui, ça arrive.
Manu Chao.
Mais je suis pas très doué. Hein. Quelle est votre saison préférée, Damien Béchiot?
L'été, Pascal.
L'été. Et
ah, l'été, c'est plus chaud, c'est caliente, on est bien.
Non, c'est vrai. Et monsieur Olivier, quelle est sa saison préférée?
Eh bien, écoutez, Pascal, vous m'entendez, Pascal?
Oui, je vous entends. Mais
eh bien, écoutez, je pense que c'est l'hiver, Pascal.
Mais c'est, vous le pensez vraiment côté, ou
Pardon? Oh, oui, non, c'est l'hiver. J'adore ça. J'adore quand il fait froid. Je vous
jure. Bah écoutez,
je ne suis pas, quelqu'un du soleil.
Vous pouvez vivre dans un réfrigérateur si vous souhaitez.
J'adore les surpassés.
Ouais. L'avantage, c'est que vous pouvez vivre dans une chambre froide. Hein, c'est bon.
Bah écoutez, merci beaucoup. Si vous me le souhaitez, c'est gentil.
Bon, eh bien, c'est vrai. Non, mais l'été, moi, j'aime bien l'automne, pour tout vous dire. Ça correspond à mon âme romantique et mélancolique.
Et vous savez que c'est la Saint-Maurice aujourd'hui.
C'est la... Et alors ?
Bonne fête à mon père.
Il pousse le bouchon un peu trop loin, Maurice.
Bon, Fabien est avec nous. Il est conseiller en entreprise. Et Fabien, il pose un sujet dont on parle régulièrement. Il dit, au nom de la liberté, moi, je veux pouvoir faire ce que je veux. Et je lui réponds, attention, vous êtes dans une société où vous n'êtes pas libre. Ce qui est une vérité, vous n'êtes pas libre. Celui qui dit qu'il est libre, il raconte des salades. Il est contraint en permanence dans la société. Et pourquoi pas? Ou alors, il va vivre tout seul sur une île déserte. Fabien, on conclut ce petit débat sur la liberté.
Oui, je voulais parler aussi d'une notion qui est, on va dire, comment dire, voisine de la notion de liberté, c'est la notion de responsabilité, parce qu'à partir du moment où on met en place un dispositif qui s'applique à tous sans discernement et de manière un peu autoritaire, effectivement, on étouffe un esprit de responsabilité. Est-ce que les Français sont idiots au point d'aller se masser dans des endroits où potentiellement on peut tomber très malade, alors qu'au même moment, il n'est absolument pas interdit, pas réglementé, de monter dans un métro bondé, si vous voulez. Donc les Français ne sont pas des idiots.
Mais avec masque, dans le métro.
Avec masque, bien sûr, mais enfin, si vous voulez, quand tout le monde se touche aux heures de pointe, moi, ça me fait quand même doucement rigoler, le masque. Parce que la personne qui va tousser à côté de vous dans un métro fermé, elle va peut-être, je dis bien peut-être, envoyer quand même quelques virus dans la rame de métro. Enfin, faut pas, il n'y a pas besoin d'être épidémiologiste ou d'avoir fait des études spécialisées pour comprendre ça. Donc moi, j'aurais bien aimé qu'on laisse un peu aux Français...
Donc vous souhaitez que tout soit levé? Toutes les contraintes soient levées, c'est ça votre position?
C'est que jamais ne soit mis en place ce dispositif.
D'accord. Ah voilà. Oui, vous auriez aimé qu'aucun... Mais, donc vous êtes contre la vaccination et contre toutes les mesures qui ont été prises depuis un an?
Non, j'ai bien dit en début d'intervention que je n'étais pas contre la vaccination, je le redis. Et je milite même...
Donc vous êtes pour la vaccination, mais de tout le monde ou uniquement des personnes fragiles?
Des gens fragiles. Parce
d'accord.
Que
donc votre position, c'est ça. Vaccination pour les gens fragiles et aucune mesure pour le reste?
Et aucune mesure pour le reste.
D'accord.
Et aucune mesure pour le reste. Après,
et vous pensez que ça aurait été efficace?
Ah, je pense que ça aurait été très efficace. Je renvoie juste à l'examen de la situation israélienne. Pour que les gens comprennent.
Tout le monde devient des spécialistes de la situation israélienne, c'est qui est rigolo.
Mais non, mais écoutez, le pays pionnier de la vaccination est un des pays les plus poussés en Occident en ce moment. Il faut quand même se mettre ça en tête. C'est tout, moi, c'est tout ce que j'ai dit. Donc, peut-être qu'Israël nous ment, mais je ne vois pas l'intérêt d'Israël de nous mentir en nous disant qu'ils sont dans les problèmes aujourd'hui. Alors que c'est un pays hyper vacciné, je renvoie aussi à la situation de la Roumanie. Roumanie, actuellement, 27-28% de vaccinés, et tout se passe très bien. Tout se passe très bien en Roumanie. Bon, il y a une petite remontée, mais tout se passe très bien. Donc, si vous voulez, même le lien entre vaccination et état sanitaire du pays, moi, je dis qu'on peut le faire, mais jusqu'à un certain point. Je pense quand même que ça joue et que ça protège notamment les plus âgés et les plus fragiles. Mais au-delà, je ne suis pas sûr. J'ai rien de scientifique pour le dire, mais je ne suis pas sûr que ça protège vraiment.
Bon, bah écoutez, merci. Le pays recense en Israël en moyenne 7000 nouvelles contaminations chaque jour, 65% du pic des infections. Le nombre moyen le plus élevé de cas de contamination quotidien a été reporté le 14 septembre. On marque une pause, à tout de suite.
On peut aller voir Olivier sur les messages Facebook, Pascal.
Ah, et comment? Vous avez parfaitement raison.
Enfin, s'il nous entend, je ne sais pas.
Mais, oui, je vous entends.
Ah, bah oui, Olivier qui aime l'hiver.
J'aime beaucoup l'hiver, bah oui.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Olivier.
Alors, les réactions sur nos réseaux sociaux aux annonces qui ont été faites. Pardon, Pascal?
Sur l'hiver, sur ce que vous avez dit?
Non, pas du tout. Sur les annonces gouvernementales.
Bien sûr.
Ouvrez un comédie club, Pascal, je vous le dis.
C'est plus intéressant.
Marie nous écrit le pass sanitaire, je n'en peux plus, il ne faut pas attendre, abolissons-le, position que ne partage pas Eric. Il est nécessaire de le conserver le plus longtemps possible, c'est un gage de sécurité. Pour Anne, la fin du port du masque à l'école dans certains départements, c'est la meilleure chose qui puisse arriver. Dans le même sens, Thierry nous dit, mon enfant n'a jamais réussi à se concentrer en classe avec son masque, c'est donc une belle épine qu'on qu'on leur enlève du pied.
Eh ben merci Olivier, on va marquer une pause cette fois et on va changer de sujet. On va parler peut-être des 110 km/h puisque vous savez que Anne Hidalgo souhaite qu'on roule moins vite. À tout de suite sur autoroute bien sûr.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RT. Participez au débat en appelant le 3210.
50 centimes la minute.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
On pourrait peut-être appeler Bernard Darniche, pourquoi pas, Laurent Tessier, ah, qu'on appelle idée. Régulièrement. 110 km/h sur autoroute au lieu de 130, c'est la proposition d'Anne Hidalgo. Pourquoi pas 90 d'ailleurs? Pourquoi pas 70? C'est encore plus.
Ah non,
plus
80, non, 80, c'est tabou.
Mais pourquoi pas? Je veux dire, on peut. Pourquoi pas?
Bah allons-y, nous allons appeler Bernard Darniche avec grand plaisir.
Bien d'ailleurs, sûr, écoute... pourquoi pas, hein, je veux dire, moins on roule vite, moins il y aura d'accidents. Hein, ça, c'est
tout
sûr.
Doucement, comme chantait Bibi.
Ah oui, effectivement,
ouais,
Bibi.
Vous
oui.
aimez mes références, j'accepte.
Oui, un petit peu daté, mais
13h41, il est temps de mettre son short.
Il va y avoir du sport, mais moi je reste.
En France, à l'école, la culture de la gagne en sport est tout simplement inexistante. Ce sont les mots de Kevin Mayer, le médaillé d'argent de Décathlon aux Jeux de Tokyo, dans une interview au Figaro. À l'école, tout est fait pour faire comprendre aux enfants qu'il vaut mieux avoir une bonne note en mathématiques qu'en sport. La réaction de la ministre, justement, des Sports, Roxana Maracineanu, sur BFM hier.
Kevin Mayer a tout à fait compris que le rôle de l'école n'était pas de provoquer une réussite d'une élite, mais au contraire, d'élever le niveau général. On ne peut pas donner au rôle de l'école, à l'école, le rôle que doit avoir un club qui dirige les jeunes vers la haute performance, les entraîne, les sélectionne et les fait arriver au plus haut niveau.
Qu'en pensez-vous à l'école? La culture de la gagne en sport est-elle tout simplement inexistante? Faut-il être plus exigeant avec nos élèves en athlétisme ou basket par exemple?
De l'orgueil, mon frère! C'est de la bouillie tout ça! C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors reprenons.
Voilà, nous attendons vos avis dès maintenant 32-10.
Non, mais Roxana Maracineanu, elle a résumé sa position. La culture de l'élite, on n'en veut pas forcément en France, mais pas que dans le sport. C'est vrai que dans notre devise nationale, il y a liberté, égalité, fraternité. Donc si on dit égalité, ben on n'aime pas trop les différences parfois. Et en sport, ben par définition, il y a une hiérarchie. 13h42.
Je vous vois
mais pas du tout, je vous vois circonspect. Donc j'essayais de lire dans vos yeux. David est là. Bonjour David.
Bonjour Pascal.
Vous êtes conseiller commercial en automobile, donc évidemment vous.
Exactement.
Vous n'allez pas vendre beaucoup de voitures si on est à 110 km/h sur autoroute. Hein.
Oh, bien que quelque part. De toute façon, toutes les restrictions aujourd'hui sur les axes autoroutiers sont là, donc ça ne nous empêchera pas de continuer à vendre des voitures.
Vous vendez des grosses voitures, des petites voitures, des voitures rapides?
De tout, Pascal, en fonction
d'accord.
de la.
Toutes les marques
Non, moi je travaille pour une marque réputée pour son Lyon.
Pour son Lyon, d'accord.
Oui. D'accord. Donc on vend de tout en fonction de la typologie client, ses besoins, ses attentes et sa mobilité notamment.
Donc si je veux acheter une 504 par exemple, je vais chez vous.
Alors ça aurait pu être dans la génération de mes parents, ça oui, pourquoi pas, avec moi j'étais un petit peu trop jeune quand même.
Il n'y en a plus de 504.
Bon,
ou une 404,
catalogue,
ou une 404,
pas,
moi j'aimais bien la 404.
Ah oui, la 404, c'était celle de mon grand-père, effectivement.
Bon, je vous remercie. Bon, qu'est-ce que vous pensez de cette mesure?
Alors, cette mesure, je la trouve en soi pas forcément intelligente et je vais vous expliquer pourquoi. Donc moi je suis conseiller commercial itinérant, donc je suis plutôt sur la route à longueur de journée plutôt qu'en concession et donc je passe énormément de temps sur les routes et les autoroutes. Alors je suis dans les Hauts-de-France, donc vous connaissez un petit peu l'autoroute A1. Je pense que c'est une autoroute qui est
très chargée.
Relativement chargée, même
pour aller
très chargée.
Jusqu'à Lille, elle est très chargée. C'est une des autoroutes qui est pas toujours très agréable d'ailleurs de ce point de vue-là.
Exactement. Et le fait de réduire la vitesse à 110 km/h, c'est un vrai danger. Et je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, dans les axes autoroutiers, en règle générale, il y a énormément de poids lourds. Il faut savoir que les poids lourds aujourd'hui, donc pas les poids lourds français, parce que ce sont des véhicules qui sont réglementés en termes de bridage moteur, mais si on prend l'exemple des véhicules étrangers, il y a certains pays qui ne brident pas leurs camions. Et quand vous avez un véhicule poids lourd 40 tonnes qui développe 500, 600 chevaux non bridés, je peux vous assurer qu'à 110 km/h, ils vous poussent. Et ça, c'est une vraie réalité. Et là, en fait, le fait d'avoir aujourd'hui 8% d'accidents mortels sur les autoroutes, Pour moi, ça paraît anodin, façon de parler, même si c'est toujours dramatique d'avoir des morts sur les routes, hein, attention. Mais ça paraît malgré tout anodin.
Oui, mais cette logique, elle est terrible. Elle sera comme la pandémie, d'ailleurs. C'est-à-dire que,
à partir
du moment où on vous dira, il y a moins de morts sur les autoroutes, si on passe à 110 qu'à 130, je vous assure, dans la société telle qu'elle se dessine ces prochaines années, cet argument, il sera massu. Et c'est ça qui me fait peur, moi, dans nos sociétés. C'est-à-dire c'est de tout voir à l'aune de ce type de statistiques. Qu'est-ce que vous voulez répondre à quelqu'un qui vous dit il y a moins de morts sur des autoroutes? On a gagné ne serait-ce qu'une personne tuée en moins. C'est imparable comme argument.
Oui, mais d'un autre côté, plus on baissera la vitesse sur les autoroutes...
Ah ben moi, il y en a, bah évidemment, oui, quoi non, si on est à 50 à l'heure, mais évidemment que ça sera, c'est moins dangereux de rouler à 50 à l'heure qu'à 130, bien évidemment.
Exactement, mais pas forcément sur autoroute. Je ne sais pas si vous connaissez un peu les Hauts-de-France, mais on a une autre autoroute qui s'appelle l'autoroute A25, qui rejoint Dunkerque à Lille, notamment, sur lequel, par rapport notamment à l'influence autoroutière qu'il peut y avoir le matin, le soir ou autre, ils ont mis ce qu'on appelle en fait des scènes de panneaux de régulation de vitesse. C'est-à-dire qu'en fonction de l'influence, vous pouvez être à 130, à 110 ou à 90 pour faire en sorte que l'autoroute devienne de plus en plus fluide. Et ça, je pense que c'est la bonne idée. C'est-à-dire que dès le moment où il y a énormément de monde sur autoroute, il faut réduire les vitesses parce que là, il y a un vrai danger. Dès le moment où les autoroutes sont
clairsemées... On le fait de soi-même, d'ailleurs. S'il y a beaucoup de monde, on fait attention. On n'a pas envie d'être... On n'a pas envie de terminer au cimetière. Donc, s'il y a beaucoup de monde, on respecte les distances de sécurité. On peut naturellement baisser sa vitesse.
Et en plus, pour aller plus loin, Pascal, avec l'évolution du monde de l'automobile, aujourd'hui, les véhicules sont de plus en plus autonomes. Alors, on va dire semi-autonomes pour les véhicules européens, puisque les véhicules 100% autonomes ne sont pas autorisés sur nos routes. Mmh. Mais les véhicules, aujourd'hui, sont capables de réguler eux-mêmes leur vitesse, de réduire leur vitesse, de freiner seul, de redémarrer seul. Aujourd'hui, on a même des véhicules qui sont capables de gérer les dépassements, les ceci, les cela. Et je trouve que le fait de baisser la vitesse à 110 km/h, pour moi, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Voilà mon point de vue.
Merci beaucoup, David.
À contrario, je suis totalement pour réduire les vitesses en agglomération, donc réduire les vitesses à 30 km/h en ville, parce que là, il peut y avoir de vrais dangers, même à 50 km/h.
Merci, David, qui défend donc le Lyon, une marque du Lyon. Il y avait la 604 également dans le temps, qui était très belle, très moderne. Philippe Bouvard, qui a longtemps été à RTL, avait une 604 aménagée. Lui.
Oui, tout à fait. On a quelques collecteurs au musée Peugeot, notamment avec des célébrités et des grandes personnalités qu'on peut encore découvrir dans ce musée. C'est vraiment super sympa à aller voir. Quoi.
Et Philippe Bouvard qui est évidemment toujours présent sur RTL, mais on se souvient de sa 604 qui était aménagée dans les années 70-80. Merci beaucoup, David. Il est parti. 13h48, nous allons continuer sur les 110 km/h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. Vous. Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Je ne sais pas si nous allons trouver un auditeur qui est favorable aux 110 km/h sur autoroute. Christophe, bonjour, qui est logisticien dans le Pas-de-Calais.
Bonjour Pascal.
Qu'en pensez-vous ?
Effectivement, je suis contre, exactement comme David, le 110 sur l'autoroute. Moi, ce n'est pas la vitesse qui me fait peur, moi, ce sont les comportements des automobilistes. Effectivement, je fréquente également cette fameuse autoroute A1, je fréquente aussi la 25, à moindre mesure que David, mais aussi la 21, et quand je m'en vais travailler, moi, ce qui me fait le plus peur, ce sont les comportements. Le téléphone portable, ça peut faire peur. Il y a beaucoup de voitures qui se déportent. Donc, à 110, je suis à 130 ou à 110, de toute façon, on aurait exactement le même problème d'accident. Donc, le 130 me convient très bien. Moi, je respecte la limitation sur autoroute. Je suis pas un fan de vitesse. Mais alors, si on commence à passer au 110 avec tous les camions que l'on doit doubler, et qui, comme David le disait, les étrangers qui sont pas forcément les meilleurs en termes de conduite, ça fait peur. Donc après, il faut se poser la question, est-ce que c'est une question d'accidentologie et il faut forcément sauver un maximum de personnes, ou est-ce que c'est une question écologique ?
Parce que là, j'ai pas la réponse. Mais
j'ai envie de dire les deux, mon capitaine, mais pour Anne Hidalgo et pour d'autres, ce sera les deux. Évidemment, là aussi, le combat écologique, il sera très rude ces prochaines années.
Après, c'est vrai que je suis d'accord avec vous. Est-ce que dans quelques années, les nouvelles générations vont forcément s'adapter aux 110 ? Et puis un jour, on passera aux 90. Et puis un jour, on prendra peut-être plus l'autoroute, forcément. Donc, c'est une réelle question. Mais moi, le 130, la vitesse ne me fait pas vraiment peur. C'est les comportements. Et effectivement, les comportements, et notamment le téléphone portable, c'est sur les autoroutes, ça fait vraiment peur. Donc le 130, moi, me convient très bien. Il faut pas baisser à 110. C'est une aberration. Déjà, j'ai testé du côté de Seclin le 30 km/h en agglo. C'est compliqué, je vous le cache pas.
Merci Christophe, merci. Je disais qu'on aurait du mal à trouver un défenseur d'Anne Hidalgo. Peut-être Igor, qui est chauffeur routier. Bonjour Igor.
Bonjour Pascal.
Qu'en pensez-vous ?
Je vais faire comme vos auditeurs précédents. Non, je suis pas spécialement pour la vitesse limitée à 110. Alors, on va toujours revenir sur le même truc. Est-ce que c'est vraiment par rapport à l'accidentologie ou pas ? Je suis pas certain. Personnellement, je vois que toutes les restrictions de vitesse qui sont mises en place aujourd'hui, certainement sont pour la sécurité routière. Mais là, en l'occurrence, je suis vraiment pas convaincu du tout que la sécurité des automobilistes, ça change beaucoup entre le 130 et le 110. Et puis j'ai envie de vous dire, quand vous avez des longs trajets à faire, bien souvent, on va dire 6, 7, 8 heures de trajet, là, 110, il faudra bien rajouter 3 quarts d'heure, 1 heure facilement. Donc quand on voit le comportement de beaucoup d'automobilistes, déjà 2-3 heures de conduite qui commencent à avoir vraiment de la grosse fatigue, et on voit bien comment ça se passe sur les routes, du fait que j'y suis toute la journée. Donc voilà, et puis voilà. Quoi. Donc,
je suis en train de jeter un œil sur les limitations de vitesse autoroute dans le monde. Par exemple, le Mexique, c'est 110 km/h, le Maroc, c'est 120, le Japon, c'est 100 km/h. Vous savez qu'aux États-Unis, ça va de 88 à 129, suivant les États. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, vous avez des États qui, sur les autoroutes, n'autorisent pas à rouler à plus de 88 km/h. C'est intéressant. En Égypte, c'est 100 km/h. Au Canada, par exemple, c'est 110 km/h.
Mais il faut voir peut-être aussi par rapport au nombre de gens.
Et ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'il n'y a... si la Pologne est à 140 km/h, je crois que c'est le seul pays au monde qui est au-dessus de nous. 130, on est dans la fourchette manifestement haute du monde entier, vous voyez. Donc c'est à Cuba, c'est 100 km/h. Je parle des autoroutes, bien sûr. En Chine, c'est 100 km/h. En Bolivie, c'est 80 km/h.
On a plein de tronçons autoroutiers en France qui sont largement limités en dessous des 100 km/h.
En Australie, c'est 100. Merci Igor, merci pour cet avis. Je sais que c'est un grand spécialiste d'automobile, Jean-Alphonse Richard.
C'est vrai.
Il vient tous les jours pour l'heure du crime, mais peut-être a-t-il un avis sur
Moi, je partage totalement ce qu'ont dit les auditeurs. C'est-à-dire que je trouve ça ridicule, et c'est surtout sur les comportements qu'il faut agir, plus que sur la vitesse. L'Allemagne, il n'y a pas de limitation sur les autoroutes, ça se passe très bien. C'est de la discipline, voilà.
Un peu de discipline
14h30, ne fait pas de mal.
Que nous proposez-vous ?
Alors aujourd'hui, le mystère Laurent Segala. C'est un généticien français très célèbre. C'est un intellectuel de renom. Il est passé à la télé, il donnait des conférences, etc. Puis en 2010, il a été accusé du meurtre de sa belle-mère, Catherine, en Suisse. Alors il va clamer son innocence, et les experts vont se déchirer sur ce cas. La justice va passer dans ce dossier, je ne vous dis pas ce qui a été dit, mais le fait est, c'est qu'aujourd'hui, le doute est toujours là, un doute épais comme le brouillard, si je puis dire, qu'il y a parfois sur le lac Léman, vous voyez. Donc c'est un dossier quasiment impénétrable, c'est très compliqué comme histoire.
Est-ce que vous, sur ces dossiers, vous avez à chaque fois une intime conviction ?
Bien sûr, mais je ne la donne pas. par principe, c'est normal. Moi, je ne suis qu'un arbitre, donc je ne suis pas un acteur.
Mais je suis
un citoyen injusticiable comme les autres. Vous avez des intimes convictions, vous aussi, Pascal Pro. Mais le but, c'est de ne pas les donner, évidemment, parce que là, on va rentrer dans un débat sans fin, et puis ça n'a aucun intérêt, ce que je peux penser.
Ah ben si, parce que vous êtes un expert.
C'est mes invités qui comptent.
13h57, la pause, le journal et une demi-heure encore de débat avec les auditeurs.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL.fr. RTL.
Il est 14h. Le flash avec Agnès Bonfillon.
Après le Conseil de défense, plusieurs annonces. À partir du 4 octobre, plus de masques obligatoires à l'école primaire dans les départements, évidemment, où le taux d'incidence est inférieur à 50 pour 100 000 habitants. Dans ces mêmes départements, il n'y aura plus de jauge qui s'applique pour l'accueil du public. En revanche, pour l'instant, le pass sanitaire, lui, est maintenu partout, mais l'exécutif dit travailler pour l'adapter dans les semaines qui viennent. Il s'appelait Hassan, il avait 5 ans. Hier soir, à proximité de chez sa grand-mère à Saint-Étienne-du-Rouvray, ce petit garçon est mort, fauché par une voiture. Le conducteur du véhicule a pris la fuite, il n'a toujours pas été retrouvé. C'est cet après-midi qu'Emmanuel Macron s'entretiendra avec Joe Biden sur la crise des sous-marins, sur cette rupture du méga-contrat par Canberra au profit de Washington. Selon le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, ce doit être un échange de clarification. Un recours devant le Conseil d'État pour le droit de mourir dans la dignité. C'est une association suisse, l'association Dignitas, qui considère que l'interdiction de prescrire le pentobarbital de sodium est inconstitutionnelle. Elle demande à ce que ce produit qui stoppe les battements du cœur soit enfin autorisé pour que les Français puissent bénéficier de l'euthanasie dans leur propre pays. La météo demain, aussi ensoleillée qu'aujourd'hui après la dissipation de quelques brouillards et grisailles le matin. Les Pyrénées connaîtront toujours des averses et la différence, eh bien, ce sera sur le littoral de la Manche, plus de nuages demain. Côté température, la même chose, fraîche le matin, 4 à Nevers, 5 à Nancy ou encore 8 à Limoges. Et puis au fil des heures, ce sera plus doux, 19 au Havre, 23 à Strasbourg, 25 à Bordeaux ou encore 27 à Nîmes. Je vous donne les résultats des courses qui se courait à Amiens. Il fallait jouer le 2, le 7, le 10, le 13 et le 3. Le 2, le 7, le 10, le 13 et le 3. Dans un instant, vous avez la parole. Et même tout de suite, Pascal Pro.
Merci beaucoup, Agnès Bonfillon.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Faut-il réduire la vitesse sur les autoroutes de 130 à 110 km/h ? Vous savez que c'est une proposition de la maire socialiste Anne Hidalgo, candidate à l'élection présidentielle. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que nos autoroutes sont dangereuses pour vous ? Beaucoup de questions sur ce thème, beaucoup d'appels également. Yves, qui habite la Seine-et-Marne, bonjour.
Oui, bonjour Pascal. Oui, enfin, je suis assez surpris de cette nouvelle initiative de Madame Hidalgo, parce que quand même, je rappelle que sur autoroute, déjà, les véhicules roulent dans le même sens, donc la possibilité de se percuter de plein fouet est quand même assez rare. D'autre part, je crois que l'accidentologie autoroute, si je ne me trompe pas, ça représente à peu près 10%, 10 à 15% de l'accidentologie totale. Alors, je vois pas trop l'intérêt de la mesure, sauf peut-être de rassurer un certain électorat, disons écologiste, et puis de faire de petites économies de carburant. Mais enfin, franchement, ça me paraît ridicule. Moi, je pense, je rejoins l'avis général, c'est qu'il faut avant tout modifier les comportements. Mais passer de 130 à 110 km/h va, selon moi, pas changer grand-chose dans l'accidentologie. Ça, je ne comprends absolument pas l'utilité de cette mesure. Bon, maintenant,
vous comprenez la démarche. On est dans des démarches idéologiques où la voiture est un ennemi, où le combat contre le réchauffement climatique est un combat engagé par souvent les Verts et parfois par les socialistes, notamment, hein, bien sûr.
Non, mais je suis d'accord avec vous. Vous avez tout à fait raison.
Ces questions-là sont idéologiques. Donc,
Elles sont purement idéologiques. Elles
sont coupées du réel. Alors, en même temps, effectivement, si vous allez de 130 à 110, mécaniquement, il est possible que vous ayez moins d'accidents sur la route. Hein, c'est très possible, ça. puisque les
oui,
gens
mais alors, roulent dans moins quel, vite. Dans quelle
moi,
oui,
vous roulez vite. J'en sais rien, je suis pas un spécialiste. Je voulais qu'on appelle Bernard Darniche, on n'arrive pas à le joindre. Mais mécaniquement, si vous passez de 100, mais si vous passez de 110, de 130 à 110, mais même si vous passez de 110 à 90, il y aura toujours encore moins.
Il y aura beaucoup. Oui, mais alors dans ce cas, on va pousser le raisonnement au plus loin. On roule à 0 km heure.
Bah on oui, mais si on pousse le raisonnement au plus loin, on arrête la voiture. Pourquoi pas
ouais. Oui, non, mais on ira à pied ou alors en tête ou en trottinette, je ne sais pas, ou à cheval. Non, mais enfin, moi, je pense que c'est purement électoraliste. Mais qu'on vienne
bah, électoraliste, je suis même pas sûr parce que je suis pas sûr qu'il y ait une majorité de gens qui soient d'accord avec ça, hein, pour tout vous dire.
Ah ben oui, moi déjà, je suis pas d'accord. Je pense que la majorité de vos auditeurs également. Non, je crois qu'il faut être sérieux. Je ne sais pas ce que c'est que cette lubie. Bon, c'est peut-être une plaisanterie que je jugerais pour ma part de fort mauvais goût, mais bon.
Non, c'est pas une plaisanterie, mais ne vous y trompez pas, vous avez un certain âge, vous avez 68 ans. Les jeunes pensent différemment de vous là-dessus. Hein. Moi, je suis frappé que vous avez aujourd'hui des jeunes gens qui arrivent, qui ne pensent pas sur ces sujets-là, et notamment sur les sujets de la vitesse, du climat, et de ça, ce que vous pouviez penser, vous, Yves.
Ah mais j'entends bien, non mais je suis parfaitement conscient de cette différence effectivement de pensée par rapport aussi aux générations, non mais ça je suis tout à fait conscient de ça, mais enfin bon disons que la mesure, l'efficacité de mesure, bon elle est peut-être efficace sur certains points, mais enfin franchement je suis très sceptique, hein. Je le dis tout à fait sincèrement, je suis très sceptique. Bon.
Eh bien merci beaucoup Yves, merci de votre témoignage. Nous repartons pour Facebook avec Olivier. Je ne sais pas si, Olivier, vous avez votre permis de conduire.
Ah oui, alors Pascal, j'ai loupé 4 fois le code, il me semble, mais j'ai eu mon permis, oui. J'étais très, très mauvais.
Vous avez eu 4 fois vous êtes...
Non, mais c'est... Si, non, mais je vous promets. Non,
vous donnez une image de la rédaction d'RTL qui m'inquiète un peu quand même.
Pardon, bah oui,
vous avez passé 4 fois le code.
Mais oui, j'ai passé 4 fois le code et je l'ai loupé. Bah oui, non, mais c'est terrible.
Et la 4e fois, vous l'avez eu?
Je l'ai eu, Pascal, avec justesse.
Ah, attendez, bah, vous m'étonnez, ma fille vient de l'avoir du premier coup.
Ah bah écoutez Pascal.
Bon, voilà. Et vous avez le permis ?
J'ai eu le permis du premier coup. Non mais je suis un homme de contradiction. Voilà.
Bon, et vous roulez, vous êtes pour ou sans, pour l'autoroute à 130 ou à 110 ou vous en fichez ?
Alors moi sur l'autoroute, je n'y vais pas parce que ça va trop vite. Ça me fait un petit peu peur.
Mais le pire, Pascal, je ne dis que vous soyez sur une route départementale. Ça m'étonnerait, j'y vais jamais. Ça sent pas bon, les routes départementales. J'aime pas les routes départementales.
Je ne prends que les chemins de village, Pascal. J'ai très peur. Non, mais je vous promets.
Je pense qu'on va faire un sketch tous les deux. Je pense qu'on va faire une tournée dans toute la France.
Une pièce de théâtre.
Avant la fin de l'année, ça c'est possible. Les gens vont dire, mais Olivier, c'est un personnage de radio extraordinaire.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Pascal. Bon, allez, les réseaux sociaux.
Je sais pas s'il faut que vous me remerciez.
Merci. Je ne sais pas non plus, mais bon, la politesse. Hein. Bon. Pour Franck, 110 km/h sur les autoroutes, c'est une aberration. Ça va créer plus d'accidents à l'inverse. Selon Anne, ça devient une nécessité. À 130, trop d'utilisateurs jouent au pilote sur les routes de France. Et on termine avec Thierry qui lance sur notre page Facebook. Il faut aller plus loin et limiter à 90 nos utilisateurs. Et je suis assez pour, hein. 90,
bon.
C'est bien.
Est-ce que vous étiez bon en sport à l'école, Olivier ?
Alors j'étais pas terrible. Non, je dois dire la vérité, j'étais pas terrible.
Pas bon.
Vous êtes bon en quoi ?
Mais vous êtes bon en quoi en fait pour avoir atterri à RTL et être au firmament de la presse française ?
Mais écoutez, je sais pas, Pascal, le hasard, la chance.
Beaucoup de chance.
Bienvenue au club, vous savez, la chance ça existe. 14h08, à tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Laurent Tessier.
C'est le retour des infos.
Non essentielles.
Non essentielles.
Alors, si vous cherchez toujours l'âme sœur, j'ai la solution pour vous. Selon un récent sondage d'un site de rencontre, lire rend sexy. Ouais, les personnes qui mentionnent la lecture comme l'une de leurs activités favorites reçoivent en moyenne plus de messages que les autres. J'ai capté votre attention là, Pascal. Les femmes craqueraient plus facilement pour des hommes qui lisent des romans policiers, des grands classiques de la littérature, et les hommes auraient un faible pour les femmes qui lisent des polars, des romans de science-fiction. Lire rend sexy, c'est le conseil du jour.
Bah écoutez, non mais sans doute, en France, à l'école, la culture de la gagne en sport est tout simplement inexistante. Ce sont les mots de Kevin Mayer, qui est le médaillé d'argent de Décathlon aux Jeux de Tokyo. Il l'a dit dans une interview au Figaro. À l'école, tout est fait pour faire comprendre aux enfants qu'il vaut mieux avoir une bonne note en mathématiques qu'en sport. C'est un très vieux débat de dire... C'est un très vieux débat de dire qu'en France, on n'est pas une nation de sportifs. Et on se compare souvent avec l'Allemagne. J'ai toujours entendu ça. Alors, on est avec un prof d'éducation physique et sportive qui s'appelle François. Bonjour, François.
Bonjour.
Vous entendez la musique de Gym Tonic. Gym Tonic, c'est pas vraiment du sport à l'école. C'était du sport, d'ailleurs, pas forcément non plus de compétition. François, est-ce que vous adhérez à ce que dit Kevin Mayer ?
Alors, oui et non. Oui et non, tout simplement parce que le sport à l'école, quand on est en zone, comme j'étais en zone ultra sensible, 2 heures de sport par semaine pour les secondes, première, terminale, 3 heures pour les cinquièmes, quatrièmes, troisièmes, et 4 heures pour les sixièmes. Alors déjà, vous voulez aller à la piscine, ça pose déjà un petit problème, parce qu'il y a des déplacements, il y a la mise en train, ça fait que sur 2 heures, ben, environ, on a 25 minutes de cours, déjà. Deuxièmement, on se rend compte une chose, c'est que le niveau baisse. Ce que je faisais faire il y a de ça 20 ans à des élèves, je ne peux plus le faire maintenant à des élèves de 6e parce qu'ils n'ont pas monté sur des barres parallèles, se tenir physiquement. On a beaucoup, beaucoup de mal.
Ah bon ?
Le fait de courir, le courir pendant un certain temps, ben non, on ne peut pas. Alors, il vient... Je suis malade, j'ai ceci, j'ai cela, couvert par, bien entendu, les parents. Donc, on ne peut pas faire grand-chose. De plus, je vous rappellerai aussi qu'il y a des sports le mercredi après-midi qui s'appellent l'UNSS, qui est quelque chose de fantastique. Et quand on est en pleine campagne, que les enfants se déplacent uniquement en car, bah bien souvent, c'est les parents qui doivent venir les emmener et les ramener. Donc, ça pose aussi un problème. Et puis, il y a ça quelques années, le président de la Fédération française de handball, M. Delplanque, a fait un très très beau discours lorsqu'il a été élu, en remerciant les profs d'éducation physique du travail qu'ils faisaient, notamment en handball, parce que si l'équipe de France a été quand même 6 fois championne du monde, que ce soit masculin ou féminin, c'est aussi un petit peu grâce au goût qu'on pouvait donner au handball à tous nos élèves. Maintenant, ne pas avoir empêché de faire des études à cause du sport, c'est inadmissible. Il y a de ça quelques années, on avait un certificat d'assiduité qui permettait à tous les enfants qui n'étaient pas très très bons d'obtenir une note de 10 qui ne leur retirait aucun point mais ne leur en rajoutait pas. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent. Mais c'est vrai qu'on ne demande plus aux élèves, quel que soit le niveau, d'avoir un esprit de compétition. Pourquoi ? Parce que les efforts, c'est difficile. Il est plus facile de faire travailler les pouces sur une PlayStation que de courir après un ballon ou même de passer des haies, monter à la corde et tout autre chose. Donc le goût de l'effort, c'est surtout ça qu'il faudrait peut-être redonner à tous ces jeunes. L'esprit de compétition viendrait parce que
l'esprit de compétition. En même temps, cet esprit de compétition, il est favorisé dans des clubs parfois, ou d'amateurs ou de professionnels. L'école, c'est autre chose. Est-ce que l'école est là pour transmettre la compétition ou est-ce que l'école est là pour permettre un apprentissage des sports, une manière aussi de faire de l'exercice ? Mais est-ce que la compétition doit être au cœur de l'apprentissage sportif ? Je parle à l'école.
Alors, à l'école, il y a des compétitions, mais c'est très très faible. La compétition, elle est surtout par rapport aux notes, par rapport aux efforts qu'ils doivent faire pour faire quelque chose. Un exemple très très simple, être capable de courir 9 minutes. C'est déjà une compétition par rapport à soi-même. Et ça, c'est aussi important, c'est le goût de l'effort. Maintenant, il est sûr et certain que les clubs sont là, les entraîneurs sont
bien là. Bien sûr, et ça c'est autre chose. Vous êtes dans quelle ville, François ?
Moi, je suis en Charente-Maritime, mais maintenant je suis retraité.
D'accord.
Et j'ai fait 30 ans de zone ultra sensible en proche banlieue parisienne.
Votre témoignage était intéressant et je vous en remercie grandement. On va marquer une pause et puis on va continuer avec Yann, avec Catherine également, peut-être ce petit débat sur les mots de Kevin Mayer, le médaillé d'argent du décathlon aux Jeux de Tokyo. Dans une interview au Figaro, il a dit, je vous le rappelle, en France, à l'école, la culture de la gagne en sport est tout simplement inexistante. La culture de la gagne. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Bonjour Catherine.
Bonjour Pascal.
Catherine qui habite la Seine-et-Marne et qui réagit donc au propos de Kevin Mayer. En France, la culture de la gagne en sport n'existe pas.
Ah, il a pas tort, je pense quand même. Globalement, j'ai un fils qui est sportif de haut niveau, alors ça fait un peu péteux de dire comme ça, mais c'est la dénomination officielle. Et je l'ai accompagné en club pendant très longtemps. Maintenant, il est rentré dans une structure CREPS où il est interne. Et en club, on entend quand même bien des parents qui voudraient que leurs enfants ne s'entraînent quand même pas trop, aient leur tout leur week-end, que la soirée soit libre le plus souvent possible, mais que malgré tout, ils fassent des résultats en compétition et qu'ils comprennent pas. Qui disent bah, « je ne comprends pas, elle est moins bonne que l'année dernière ou elle n'y arrive pas ». Ben oui, les cocottes, elle ne vient pas aux entraînements ou alors aux entraînements, elle ne se force pas trop. À un moment donné, si on veut du résultat, quelle que soit la discipline, c'est valable pour la musique, c'est valable pour à peu près tout apprentissage d'ailleurs, il faut un tout petit peu y mettre du sien et travailler. Et j'ai l'impression que le sport, on en a fait beaucoup du plaisir. Le judo a très bien réussi. La fête du judo a très bien œuvré. Les petits font des roulades, s'amusent, etc. Mais dès qu'ils commencent à être repérés et à être bons, l'amusement, c'est fini. On leur dit maintenant, il va falloir travailler et travailler sérieusement si tu veux arriver à un niveau national, voire international. C'est-à-dire que l'amusement, c'est une bonne approche des choses, mais on ne peut peut-être pas tout faire qu'en s'amusant.
Mais votre fils, il a quel âge, Catherine ?
13 ans. Bon, 13 ans.
C'est très intéressant, le sportif de haut niveau, parce que j'en ai rencontré quelques-uns dans ma vie, et forcément... Ouais. Il y a quelque chose chez eux que les autres n'ont pas. Et ça, vous avez dû le voir tout de suite. Ce n'est pas forcément des dons, c'est aussi une volonté, une détermination.
C'est la volonté d'y aller, voilà, et de vouloir le faire, mais d'accepter aussi que tout ne soit pas un amusement. C'est-à-dire qu'il adore sa discipline dans laquelle il trouve du plaisir. Mais
c'est quoi sa discipline ?
C'est une discipline de gymnastique. Il trouve pas du plaisir dans chaque moment de l'entraînement. Et c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il y a des trucs, ça fait mal. Il y a des trucs, c'est long. Il y a des trucs, c'est pénible. C'est un peu ingrat. C'est un peu plein de choses. Ce qui lui plaît, c'est qu'à l'arrivée, ça lui permet d'être bon et de faire sa discipline dans de bonnes conditions. Mais on peut pas leur mentir en leur disant tout ton entraînement sera plaisant, sympa.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais vous avez raison. C'est pas une partie de plaisir. Mais il y a aussi dans le mental. C'est ça qui est intéressant. Parce que le mental, est-ce qu'on peut travailler un mental d'un sportif de haut niveau ou est-ce qu'il naît NAIT comme ça?
Je pense quand même que si on leur dit les choses, c'est-à-dire que tout n'est pas plaisir immédiat, mais que oui, après. Vous voyez, hier c'était Alzheimer et ça m'y fait penser parce que mon père était un pianiste. Un excellent pianiste. Et sur la fin de sa vie, Alzheimer, il se rappelait plus de rien, sauf de ses années de piano. Et il discutait avec mes enfants que de ça, parce que il savait même plus qui ils étaient, mais ça fait rien. Il disait, tu verras, j'ai passé des années de conservatoire pas très rigolotes, mais je me suis amusée après toute ma vie sur un piano. Et c'est exactement ce que je souhaite à mon petit garçon, là, c'est de faire des années parfois difficiles, certainement, mais enfin, il le sait depuis déjà un petit bout de temps, parce que c'est une discipline qu'il pratique depuis qu'il a 6 ans, mais de trouver du plaisir, et du plaisir longtemps, à faire les choses bien, joliment, abouti, en ayant été, pas forcément champion olympique, mais au bout de ce qu'il est capable de faire. Il s'est donné les moyens, et je trouve qu'on ne le dit pas assez aux jeunes, que c'est super gratifiant de ramer. Oui, ils rament un peu quand même. Hein. Ils ont mal, ils en ont assez, ils ont 3 crampes, ils se font un peu brûler l'épaule sur le tapis parce que ça brûle, mais à un moment, ils produisent quelque chose qu'ils ne se croyaient pas capables de produire, et ils en sont super contents. C'est comme les gamins en prépa qui disent « on en a bavé, mais quand même, je me suis sentie capable de faire des trucs que je ne savais pas faire. » Donc oui, je pense que ça se cultive un peu.
Merci en tout cas de ce témoignage. Je retiens de ce que vous dites d'aller au bout de son potentiel. Ça, c'est intéressant. Je retiens aussi la fierté qu'on peut avoir lorsqu'on va au bout précisément d'un effort. Le plaisir, la prime du plaisir vient effectivement après ces efforts et c'est une forme de leçon de vie. Merci Catherine. Il est 14h23. Après la leçon de vie, au revoir et bon après-midi. La leçon de débrief, comme tous les jours, avec Monsieur Tessier.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission par Laurent Tessier.
Et aujourd'hui dans l'émission, Fabrice a tenu à reprendre notre question du jour.
Vous avez posé la question en disant, si j'ai bon souvenir, est-ce le bon moment pour alléger les contraintes ? Moi, ma question, ce serait plutôt, mais pourquoi a-t-on mis ce délire en place ? Non mais je le dis franchement parce que c'est...
Parce que votre question, oui, elle est quand même surréaliste. Pourquoi est-ce qu'on a mis en place des contraintes ?
Une autre question vous a fait réagir. Faut-il réduire la vitesse sur les autoroutes limitées à 130 km/h ? La maire socialiste de Paris, Anne Hidalgo, candidate à la présidentielle, est favorable à cette idée. David aurait peut-être du souci à se faire.
Vous êtes conseiller commercial en automobile, donc évidemment, vous...
Exactement.
Vous n'allez pas vendre beaucoup de voitures si on est à 110 km/h sur autoroute. Hein.
Et nous sommes le 22 septembre, c'est une date importante.
Sous la pluie fine, l'automne est là.
Quelle est votre saison préférée ? On a interrogé l'équipe.
Quelle est votre saison préférée, Damien Béchiot ?
L'été, Pascal.
L'été, et vous ?
Ah, l'été, c'est plus chaud, c'est caliente, on est bien.
Non, mais c'est vrai.
Ah oui, l'été, c'est bien, c'est le barbecue, c'est la plage, la piscine, évidemment. Ah, il faut bien un membre de l'équipe avec un avis totalement différent.
C'est l'hiver, Pascal.
Mais c'est, vous le pensez vraiment côté, ou
Pardon ? Ah oui, non, c'est l'hiver, vrai. J'adore ça, j'adore quand il fait froid, je vous
D'accord,
jure.
D'accord, bah écoutez, c'est...
Je ne suis pas quelqu'un du soleil.
Vous pouvez vivre dans un réfrigérateur si vous
souhaitez. J'adore les
c'est possible.
Ouais. L'avantage, c'est que vous pouvez vivre dans une chambre froide. Hein.
Vive la doudoune, et vous le savez, dès 12h30.
RTL Midi, Amandine Bégaud, Pascal Pro.
Alors Damien, je propose aujourd'hui d'autres noms de présentateurs.
RTL Midi.
Nous retrouvons James et Pamela maintenant pour les débats du midi, c'est leur vrai nom.
Certainement s'y attendre, mais le public qui était là
Sinon,
était là pour...
Je ne sais pas s'ils traînent dans les couloirs de RTL en ce moment.
Vous prenez quelque chose le matin, vous prenez des stupéfiants?
Non, pas du tout. Ah, rien du tout. Alors là, je viens faire les tests, et là, une analyse d'urine, même si vous voulez.
Bah écoutez, je ne sais pas.
Vous parlez de Julien Courbet, Pascal, mais vous aussi aujourd'hui, il y a quelque chose qui ne va pas.
Ça bascule en tout cas.
Allez-y, dites-nous.
Bah non, mais ça bascule.
Oui, ça bascule. Ah, oui.
Bah, le mercredi à 12h30, ça bascule toujours. On c'est le milieu de la semaine.
Alors vous, j'ai l'impression par contre que vous prenez vraiment des substances.
Allez, le débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. On se quitte avec la chanson préférée de Monsieur Boubouk et sa passion de l'hiver.
Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais.
Notre ami Olivier qui est formidable et qui fait effectivement la page Facebook chaque jour. Jean-Alphonse Richard, il y a quelque chose dans toutes les histoires que vous racontez qui ajoute parfois à certaines énigmes un intérêt, c'est précisément lorsqu'il y a un doute. Et les grandes histoires criminelles
toujours.
Depuis deux siècles, celles qui ne sont pas résolues, je pense à l'affaire Grégory bien sûr et à tant d'autres, il y a dans ces cas-là quelque chose de plus attractif.
Bien sûr, et vous avez complètement raison, je vous suis totalement là-dessus, avec aujourd'hui d'ailleurs un mystère, hein, le mystère Laurent Segala, c'était un généticien vraiment de génie, quelqu'un de très important, il a été accusé du meurtre de sa belle-mère, les experts vont s'écharper sur son cas, au point qu'effectivement le doute va persister. Et puis je vous pose cette question, Pascal, est-ce qu'un accusé qui se défend mal est-il forcément un coupable ?
Bah, la réponse est non, vous le savez bien.
On va voir lors de cette affaire.
Au contraire, même, j'ai l'impression que parfois, j'ai envie de dire, il se défend tellement mal.
C'est parfois un accent de sincérité.
Bien sûr, bien évidemment.
Et c'est aussi tout le problème de cette histoire que je vous raconte à 14h30.
Eh bien, merci, à demain et à tout de suite.